rencontrer avec vous François Claus ce soir. Pascal Rollet, architecte et professeur à l'école d'architecture de Grenoble.
Bonsoir Pascal Rollet.
Oui, bonsoir.
Vous êtes également responsable de la chaire Habitat du Futur qui est rattachée au ministère de la Culture. On sait que pendant la pandémie, une réflexion s'est lancée. On peut d'ailleurs la voir dans une très très belle exposition à Paris, là au Palais de l'Arsenal, intitulée « Et demain, on fait quoi ?» où des témoignages d'architectes viennent évoquer les nouvelles pistes de recherche pour le logement. D'actualité qui plus est, cette question, elle l'est avec ce nouvel épisode caniculaire, le deuxième de l'été qui va submerger nos villes et nos appartements. Pascal Rollet, j'ai été frappé par le témoignage qu'on a pu entendre sur Europe de la maire de Besançon. Elle nous disait lors du précédent pic de chaleur qu'il y avait un différentiel de 18 degrés de température dans les quartiers de sa ville entre les zones qui étaient arborées et les zones totalement minéralisé. Est-ce que cette réflexion-là vous paraît pertinente aujourd'hui? Il est grand temps de changer notre ville, notre univers urbain.
Oui, tout à fait. Le problème de fond de nos villes, c'est qu'elles ont été pensées pour l'hiver. Et donc, elles sont plutôt très minérales, très serrées, et elles captent le soleil de façon à pouvoir valoriser le soleil pendant l'hiver. Notre problème futur, c'est l'été, en fait, qui est en train d'arriver, les problèmes caniculaires qu'on voit poindre avec le réchauffement climatique. Ce seront aussi les instabilités climatiques, mais on en parlera une autre fois. La problématique de chaleur, elle est très difficile à combattre, parce que ces bâtiments très minéraux se chargent en chaleur sous l'effet du soleil et restituent cette chaleur pendant la nuit, ce qui rend extrêmement inconfortable nos appartements, nos logements. Il y a deux dispositifs majeurs qu'il faudrait pouvoir mettre en place tout de suite. Ce serait effectivement d'arborer beaucoup plus les villes, puisque les arbres ont la vocation de faire de l'évapotranspiration et donc par l'émission d'humidité et la création d'ombre protège les bâtiments, mais principalement dans les parties basses des bâtiments. En revanche, dans les parties hautes, il faut généraliser les protections solaires d'une manière absolument massive et pas des petites protections solaires, des choses très puissantes qui empêchent que le soleil vienne frapper les parties minérales. Et puis que on puisse mettre au point des appartements qui soient systématiquement traversants. C'est-à-dire qu'on puisse ventiler d'un côté à l'autre d'une rue et ne pas se retrouver dans ces fournaises que sont, par exemple, un appartement au dernier étage, au mono-orienté, ouvert vers le soleil de fin d'après-midi à l'ouest. Alors qui devient un véritable four.
Cette double réflexion passionnante que vous formulez ce soir sur Europe 1, Pascal Rollet, elle se heurte évidemment à un double obstacle, celui de ces villes, je pense à Marseille, à Bordeaux, dont les réhabilitations ont été très récentes, notamment autour des quartiers des ports, et qui se trouvent de fait être très très minérales. Est-ce qu'il est possible d'y revenir alors que ces rénovations viennent d'avoir lieu? Et pour les appartements traversants que vous évoquiez, il y a aujourd'hui des normes, souvent imposées par la réalité économique et celle des promoteurs, qui vous empêchent, vous, architectes, de développer ces projets.
Oui, alors, vous prenez l'exemple de Marseille, mais c'est pas forcément le pire exemple, parce que les Marseillais, tous les gens du périmètre méditerranéen ont l'habitude de se protéger de la chaleur, ils savent ce que sont ces protections solaires.
Oui, mais on aurait aimé avoir quelques arbres sur le cours Estienne d'Orme ou sur la place de la Joliette,
oui,
par exemple, ou autour de la Major. Ça en manque.
C'est certain, mais ils risquent de cramer pas mal aussi, c'est parce qu'il faut en mettre un paquet, et il faut beaucoup d'eau pour pouvoir les faire tenir, et donc il y a une espèce d'optimum à trouver entre l'eau qu'on donne aux arbres et l'eau qu'on doit sauvegarder pour faire fonctionner la ville.
Ouais,
donc je pense que l'enjeu
aussi,
il est au nord de Lyon. Il est au nord de Lyon. Et c'est sur tous les territoires qui sont actuellement, on le voit bien, frappés très fort par les questions de canicule, et notamment ceux qui sont habitués à des climats continentaux. Toute l'Alsace, tout le Grand Est, tout le Nord, les Hauts-de-France et tout ça, ils n'ont pas l'habitude du tout de ces réchauffements-là et les bâtiments ne sont pas pensés pour ça. Et donc il y a un travail à faire de réenvelopper les bâtiments pour les reprotéger au niveau du soleil, permettre la ventilation traversante et puis effectivement arborer les villes beaucoup plus.
Donc ça, vous nous dites, c'est encore possible de le faire, hein, et là vous renvoyez justement à ce que la maire de Besançon que j'évoquais tout à l'heure dans ces zones nouvellement frappés par les canicules peuvent faire. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait possible, nous dites-vous. À court terme,
c'est possible à partir du moment où...
Évidemment.
Bien sûr, c'est possible à partir du moment où on mobilise l'économie pour se dire, ce qui est le plus important, c'est peut-être notre habitat avant que d'avoir une super belle voiture. Et donc de mettre l'argent là-dessus plutôt qu'ailleurs. Et c'est aussi possible si effectivement les règlements d'urbanisme permettent des évolutions. Mais ils sont faits pour ça, les règlements d'urbanisme. Ils sont finalement assez souples et on les transforme un peu comme on souhaite en fonction des contraintes. Donc la problème. La problématique de fond, elle est sur les moyens que l'on veut bien mettre pour construire et fabriquer l'habitat qui est adapté aux nouvelles conditions de vie. Et ça, c'est une question qui se retourne directement vers la manière dont l'économie du bâtiment et du logement est faite. Et c'est une question cruciale qu'il faut que nous traitions très vite.
Et c'est entre les mains du ministère du Logement, c'est entre les mains de Bercy, c'est entre les mains... Il y a la possibilité pour un élu local, un maire, d'imposer des normes, mais il n'aura peut-être pas les moyens de les faire appliquer après.
Le problème de fond, c'est que actuellement, le logement est un produit financier, alors que je pense qu'il doit être considéré comme un produit de première nécessité. Et donc, ça veut dire qu'au niveau de l'économie générale de notre pays, on pense le logement différemment et non pas comme un endroit où on va faire du profit, mais un lieu qui est nécessaire à tous pour survivre. Et donc, de ce fait, si on a ce changement de psychologie, je dirais presque de culture, eh bien, on dirige les ressources d'une autre manière, comme on met de l'argent pour l'hôpital. Il faut mettre de l'argent pour le logement.
Mmh. Et vous sentez que justement du côté de ce monde et de cette économie du logement que vous évoquez, on pense notamment aux promoteurs qui imposent très souvent leurs normes, l'évolution des mentalités est en passe de se dessiner.
Je ne suis pas très optimiste en ce moment. J'espère qu'on va réaliser très collectivement qu'il y a une évolution très forte à faire. Non, actuellement, on a encore une approche du logement qui est très business pour revenir à la manière dont on fonctionnait avant et sauvegarder les marges que l'on faisait dans ce domaine-là. Ça va être une question cruciale dès la rentrée, là, puisque beaucoup d'opérations qui sont lancées où les promoteurs disent « je ne peux pas construire, je m'en sors pas si je suis au-dessus de 1 400 € du mètre carré », alors qu'on sait que pour construire avec ces systèmes de protection solaire, avec des appartements traversants qui consomment un peu plus de surface, qui consomment un peu plus de circulation, mais on est plutôt dans les 1 700, et puis si on fait vraiment des bâtiments qui sont avec des matériaux biosourcés et qui par ailleurs font des économies de carbone et nous évitent d'aggraver la question des émissions des gaz à effet de serre, eh bien on est plutôt entre 1 700 et 2 000. Donc vous voyez qu'il y a un effort financier assez fort à faire globalement. Du côté des mairies, du côté des habitants, du côté des collectifs, du côté des métropoles, le message passe. Ils se rendent parfaitement compte de qu'il y a cette évolution très forte. Maintenant, il faut qu'on trouve comment partager cette culture avec nos amis promoteurs qui, pour l'instant, sont encore dans une logique mercantile très forte. Je pense qu'ils ont il y a une manière pour trouver un équilibre financier pour que l'ensemble fonctionne, que tout le monde s'y retrouve. Mais il faut qu'on lâche cette idée d'y faire un profit phénoménal pour pouvoir rendre un service collectif et commun auquel toute la population a droit.
Et qui redonnerait un sens et une éthique peut-être encore plus au métier d'architecte que vous représentiez ce soir sur l'antenne d'Europe 1, Pascal Rollet. Merci d'avoir été aussi pédagogue et d'avoir évoqué cette piste de réflexion passionnante, et on a compris que il faudrait faire un effort pour qu'on aille vers le prix d'un mètre carré qui nous permette de vivre tous collectivement dans l'espace urbain et individuellement dans notre habitat de manière plus confortable demain, et que le logement doit devenir un bien de première nécessité. J'espère qu'on prolongera une fois ou l'autre cette réflexion sur Europe 1, Pascal Rollet.
Très volontiers.
À bientôt, au revoir.
À bientôt, au revoir.